Et nous allons donc entamer à la session des questions et des réponses. Il est 12h26 à Goma où nous nous rendons immédiatement pour une première question.
Je suis Gisèle Kaimbani, correspondante du Canal Afrique dans cette région. Ma question, je l'adresse un peu à Alain Rancard de l'OMS. Vous avez parlé du bilan jusqu'au 5 de ce mois, par là des 36 décès et 43 cas confirmés. Est-ce que ces chiffres concernent également les personnes enregistrées avant la confirmation de l'Ebola, soit donc du mois de mai, ou ces chiffres concernent juste cette période du mois d'août, donc depuis les débuts de ce mois?
Je peux répondre. Non, ce chiffre concerne le bilan de l'épidémie depuis le début. Depuis que les premiers cas ont été notifiés et enregistrés, tous ces cas ont été pris en compte dans les chiffres qui viennent d'être donnés.
Nous prenons une deuxième question à Goma.
C'est Alain Lamé pour Lundi Hebdo. Je reviens toujours à Monsieur Alain pour la question d'Ebola. Quels sont les dispositifs qui sont pris par rapport au renforcement des surveillances au point d'entrée et des sorties? Parce que dans la zone, excepté Manguina, nous observons qu'il n'y a pas de point de lavage de mains, il n'y a pas aussi des thermomètres scanners pour essayer un peu d'endiguer ou alors de limiter les gens qui sortent afin de limiter aussi des contacts pour la propagation. Quelles sont les mesures qui sont prises? Même à Goma ici, on le voit, on a remarqué au niveau de l'Équateur que même tous les centres, les institutions, les structures avaient des points de lavage de mains, avaient pour la plupart de thermomètres, mais cela, ça ne se voit pas dans la province du Nord Kivu. Pourquoi?
Je crois que nous sommes actuellement au début de la riposte et je crois que les choses se mettent en place progressivement. Je commence par les points d'entrée. Nous avons dans le dispositif de riposte toute une commission qui s'occupe des points d'entrée. Et cette commission, nous avons une commission ici à Kinshasa qui donne des orientations, mais sur le terrain également, nous avons une commission qui s'occupe du travail au quotidien. Donc, je crois que le travail est en train de se faire. Peut-être que ça ne vous c'est pas encore apparent, mais vous verrez que dans les jours à venir, vous verrez que ce travail est effectif sur le terrain. Le dispositif de lavage des mains, mais je crois que c'est la même chose. Il y a des dispositifs de lavage des mains qui sont en train d'être envoyés régulièrement sur le terrain, aussi bien à Manguina, l'épicentre de l'épidémie, qu'à Beni, de même qu'à Goma. Et donc, dans les jours à venir, les formations sanitaires et même les points de rassemblement, il y aura des dispositifs de lavage de mains qui seront disponibles pour tous ceux qui passeront par là pour pouvoir essayer de faire de l'hygiène individuelle. Pour les thermomètres, c'est la même chose. Je crois qu'il y a déjà, je dirais, au moins 300 thermoflashs qui ont été envoyés sur le terrain aujourd'hui. Donc, d'autres quantités vont encore être envoyées, de sorte que pour le contrôle sanitaire, qu'on puisse avoir le nécessaire pour pouvoir faire ce contrôle sanitaire.
Nous allons prendre une question ici à Kinshasa. Oui, madame. Est-ce qu'on peut poser la question, on vous entend.
Bonjour, c'est Christiane Ekambo du Journal des Nations.net. Ma question s'adresse au docteur, le représentant de l'OMS. Docteur, il y a notre correspondant sur place à Manguina, à Beni, qui nous informe qu'il y a des problèmes en ce qui concerne l'inhumation des cadavres dus à l'Ebola. Jusque-là, c'est la population qui s'en occupe. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises?
Effectivement, il y a des dispositions qui sont prises parce que la gestion des corps, des gens qui sont décédés d'Ebola, c'est la véritable source de contamination. Et donc, par rapport à ça, il y a toute une équipe encadrée par le ministère de la Santé, avec l'appui de la Croix-Rouge, de la Fédération, du CICR et de la Croix-Rouge congolaise, l'équipe a été formée pour ce travail. Il faut dire que au début de chaque épidémie, ça a toujours été un peu difficile. Il faut faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils évitent vraiment, quand il y a un corps, que de laver le corps, de toucher le corps. Parce que il est évident que quand quelqu'un décède, c'est un système un peu dynamique, mais les virus du corps ont tendance à se mettre sur la peau. Et donc les gens peuvent très facilement se contaminer. Et c'est pour ça que dans la sensibilisation des communicateurs, ils font passer ce message également dans les familles pour que quand il y a un décès, que les gens puissent attendre que l'équipe puisse venir les aider à faire un enterrement digne et sécurisé. Et ça, actuellement, sur le terrain, ça se fait déjà. D'ailleurs, il y a deux jours, il y avait eu un décès dans un village où les villageois ont envoyé chercher l'équipe qui était à Béni pour se déplacer à cet endroit-là pour pouvoir les aider à faire cet enterrement. Donc, je crois que ça commence à prendre corps.
On prend une question. Oui, Albert.
Merci, Florence. Docteur, et je reviens sur la question de mon prédécesseur sur le moyen qu'on a pris pour la riposte, et surtout pour la sécurisation de l'endroit. Et en attendant que le dispositif soit mis au point, est-ce qu'en amont, au niveau de Irengeti, au niveau de Nziapanda, au niveau de Mupanda et même de Mambasa, parce que là, il y a une fluctuation de piétons qui ne pouvait pas être contrôlée. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont pris pour le côté ouest de Mangina par rapport au côté est qui est quand même contrôlé?
Oui, je crois que d'abord deux aspects. L'aspect sécurité, c'est ça que vous avez voulu aborder. Dans le dispositif, il y a une commission sécurité. Donc, pour que les collègues puissent se déplacer, il y a la commission sécurité qui donne des orientations. Et donc, vous avez parlé de Mambasa. Il y a une équipe qui a quitté Beni et qui est actuellement sur Mambasa. Donc, je crois que les collègues, par rapport aux orientations de la commission sécurité, essayent quand même de voir là où ils peuvent aller pour pouvoir faire passer le message et s'il y a des cas, pour pouvoir prendre ces cas en charge. C'est vrai, la situation est assez complexe. Vous l'avez entendu dans mon propos préliminaire. Donc, parfois, on est obligé de faire très attention, effectivement.
Nous allons à Goma pour prendre une série de questions.
Merci beaucoup, c'est Guillaume Baloumé pour Zoom TV. Alors, je voulais juste savoir, surtout avec ce qui est en train de se passer à Beni avec les ADF, est-ce que ce sera vraiment possible que le cas d'Ebola puisse être résolu, surtout pour les humanitaires? Est-ce que c'est vraiment accessible la zone de Beni? Est-ce que vous croyez vraiment que ça sera vraiment possible? Merci.
Ok, l'accessibilité est un problème. Ça, c'est une réalité, mais nous sommes face à un événement et par rapport à ça, on est obligé de faire des efforts pour pouvoir donc résoudre le problème. Je crois que quand on a un événement comme l'épidémie de la maladie à virus Ebola, il n'y a pas que l'équipe de santé qui doit être engagée. Je crois que tout le monde doit être engagé et c'est ce que les autorités nationales sont en train de faire. Le 2 août dernier, quand on était sur le terrain, on n'était pas que l'équipe de santé, on était avec les autorités administratives, les autorités politiques, avec les autorités militaires. Donc, de ce côté, je pense que tout est mis en œuvre de sorte qu'on puisse venir à bout de cette épidémie. Mais il faut se dire, ce combat-là, il ne faut pas se voir vaincu à l'avance. Il faut dire que nous allons réussir et on doit réussir.
J'apporte un complément d'information à Béni. Comme vous le savez, nous avons la brigade d'intervention. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3000 hommes. Et dans le cadre de soutien que la MONUSCO peut apporter pour la riposte à cette épidémie, il y a bien évidemment des escortes apportées aux équipes de santé et d'autres choses qui restent encore à déterminer. Donc on est dans un cas de figure qui est différent de celui qu'on a connu lors de l'épisode précédent dans la province de l'Équateur. On reprend une deuxième question à Goma.
Jérémy Kiambu pour la radio Taïna Goma. Encore 14 morts enterrés mardi dernier à Beni. Cela me pousse à poser la question de savoir quels font vos drones, les drones de la MONUSCO et la brigade d'État chantée comme celle qui va mettre fin au massacre de Beni. La question est militaire. À vous.
Colonel, c'est à vous.
Moi, je n'ai pas gardé votre nom. Alors, c'est vrai que nous disposons d'un grand nombre de troupes à Beni, mais il faut faire attention au type d'affrontement. C'est la mission de la force en RDC, c'est une mission de neutralisation. Ce n'est pas une mission d'extermination. Les combats se déroulent au sein des populations. On a beau avoir la suprématie dans le rapport de force, il n'est pas question de venir larguer des bombes et de faire demi-tour, comme on peut l'avoir vu ailleurs. Deuxièmement, il faut savoir le type d'ennemi auquel on a affaire. Il s'agit d'un ennemi qui se confond rapidement à la population. Il n'est pas donc facile de l'identifier, même si vous avez la technologie la plus perfectionnée. Il faut savoir que c'est un ennemi qui parfois bénéficie de complicité, et ce n'est même pas exclu, j'ose dire, de sympathie des populations qui leur fournissent donc une logistique et qui les entretient. Mais il faut également savoir que c'est un ennemi assez volatile qui peut aller de part et d'autre d'une frontière. Donc, voyez, quand tout ça là est réuni, il faut inscrire l'action dans le temps, c'est-à-dire opposer à l'ennemi un mode d'action qui l'asphyxie progressivement au point où il vient se rendre. Je suis d'accord avec le camarade journaliste, mais je dis que ne prendre en compte que le rapport de force, c'est prendre le risque de faire une mission d'extermination, et c'est loin d'être le cas de la mission que le mandat des Nations Unies donne à la force. Je ne sais pas si j'ai satisfait, mais s'il y a autre chose, on peut y aller toujours.
Je vais apporter un complément. Évidemment, nous sommes tous touchés par cette nouvelle acte commis contre des populations civiles. Et je voulais dire aussi que la mission continue de mener des opérations contre les ADF. Mais évidemment, à chaque fois qu'on fait une opération conjointe avec les FRDC, on ne vient pas l'annoncer. Mais la semaine dernière, il y a eu une opération conjointe menée avec les FRDC, qui restent, comme vous le savez, les premières forces pour sécuriser le territoire, et nous intervenons en appui. Ça a été le cas la semaine dernière. Une opération a été menée dans la région de Beni, et qui a permis de neutraliser quelques représentants des ADF. On revient ici à Kinshasa avec... Il y a tellement de mains qui sont levées. On va faire avec madame.
Moi, c'est Mamie Tabangou de la RTNC. Ma question, je l'adresse au porte-parole de la MONUSCO, madame Florence. Pourquoi la MONUSCO n'a-t-elle pas accédé à la demande de Moïse Katumbi d'accéder sa protection d'assurer sa protection pour lui permettre d'entrer sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et puis la seconde, que, quelle lecture fait la MONUSCO de l'évolution du processus électoral en RDC?
Alors, concernant la première question, je voudrais ici préciser que tout ce que nous faisons est décrit dans la résolution 2409 que nous a donné le Conseil de sécurité. Et donc toutes nos actions trouvent une justification dans ce mandat. Et dans ce mandat est clair, il n'est nulle part inscrit que la MONUSCO peut ou doit fournir une protection physique à des personnalités ou à des candidats. La sécurité des personnes et des biens, y compris lorsque ces personnes exercent leur liberté fondamentale ou leurs droits politiques, ainsi que la responsabilité du maintien de l'ordre public, sont des missions régaliennes de l'État congolais. La représentante spéciale du secrétaire général a rencontré la semaine dernière, comme elle le fait au quotidien, mais dans ce cas précis, la semaine dernière, les représentants des partis politiques, y compris de la formation de M. Katumbi, et elle avait transmis ce message. Elle rencontre aussi les représentants du gouvernement. Elle a rencontré la semaine dernière le ministre des Affaires étrangères et tout le monde est d'accord sur cette interprétation du mandat de la MONUSCO. Alors, bien sûr, nous avons d'autres outils qui sont également décrits dans la résolution pour mettre en œuvre notre mandat, dont la protection des civils. On va parler des bons offices, on va parler du monitoring, de l'observation et des rapports que nous faisons lorsque nous constatons des violations des droits de l'homme, de l'appui au système de justice pour lutter contre l'impunité, qui sont également des outils pour la protection des civils dans le cadre de l'exercice des droits civils et politiques. Pour la deuxième question concernant l'évolution du processus électoral, on fait souvent référence à trois documents qui sont d'abord la constitution congolaise, ensuite l'accord du 31 décembre et en troisième lieu le calendrier qui avait été présenté par la CENI en novembre dernier. À ce jour, et on l'a dit dans le dernier rapport que nous avons communiqué au Conseil de sécurité, des progrès sont constatés pour la mise en œuvre de ce calendrier électoral. On a pu constater que lors du dépôt des candidatures pour les élections provinciales, il y a eu un véritable engouement. On a enregistré près de 19 000 candidatures. Donc les parties prenantes sont engagées dans le processus et nous ne pouvons que les encourager à poursuivre et à continuer à ce rythme jusqu'à la date du 23 décembre prochain. Alors il reste bien sûr des points à régler, celui de la machine à voter, celui des listes électorales, et ça aussi c'est un domaine dans lequel intervient la représentante spéciale du secrétaire général ainsi que ses personnels les plus afin justement de rapprocher tous les points de vue dans ce domaine. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à vos deux questions. Je vais aller sur ma droite avec monsieur. Ah, bon.
Merci beaucoup, Florence et monsieur Lambert, Émergence Plus. Je voudrais justement rejoindre ma consoeur en ce qui concerne le processus électoral. Aujourd'hui, nous sommes le 8, c'est une date historique pour le Congolais. Les pays de la région, notamment l'Angola, le Rwanda, ont déclaré clairement qu'une option militaire sera levée au cas où les élections ne seront pas organisées le 23 décembre. Alors ma question est celle de savoir quelle sera la position des Nations Unies ou de la MONUSCO ici, si seulement si le pays de la région arrivait à lever cette option militaire pour contrer les autorités congolaises à organiser les élections. Est-ce que vous allez rester observateur ou rejoindre le pays de la région pour stabiliser les territoires congolais? Merci.
Je crois que là, on est un peu dans la politique fiction. Comme je viens de le dire, pour l'instant, il y a un calendrier. Le calendrier, les étapes sont respectées. Vous l'avez dit vous-même. Aujourd'hui, on est le 8 août. Fin du dépôt de la candidature pour les élections législatives nationales et pour l'élection présidentielle. On a vu que des candidats se sont déjà déclarés, d'autres doivent encore se déclarer. Donc les étapes sont réalisées les unes après les autres et donc pour l'instant on suit cela de près, bien évidemment, mais on n'est pas dans les spéculations par rapport à tel ou tel scénario. On va aller à Goma pour prendre une question, s'il vous plaît.
Voilà. Moi, c'est M. Okito Teme Papi, du journal Écho d'Opinion. Il y a beaucoup de questions à poser, mais j'ai la question de M. de l'OMS. Chef, en fait, en RDC, la plus grande épidémie d'Ebola, c'était à Kikwit. Mais entre Kikwit et Kinshasa, c'est 500 km. Les personnels à l'époque ont su maintenir ou contenir l'épidémie à Kikwit. Ça n'a jamais arrivé, même au niveau de Kinshasa. Mais pas plus tard que quelques mois en Équateur, nous ici, on vous avait posé la question, est-ce qu'il y a des mesures que vous prenez pour que cette épidémie ne sorte pas de l'Équateur? Il n'y a même pas ces deux ou trois mois, monsieur, ici à le Nord qui vous est déjà menacé. Est-ce que ce n'est pas vraiment de l'aventure de la part de ce personnel que vous mettez en place? Parce qu'après Goma, je crois que ça va aller à Kindu et ça va faire le tour de la République démocratique du Congo.
Ok, on a bien compris votre question. Le docteur Alain Rongar va y répondre immédiatement.
La réponse.
Bon, votre question est très bien comprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la République démocratique du Congo a un écosystème favorable à la circulation du virus d'Ebola. Donc, on peut trouver le virus d'Ebola. Vous avez parlé de Kikwit tout à l'heure. Mais si vous faites le point des épidémies qu'il y a eu dans ce pays, il y en a eu au centre, il y en a eu au nord, il y en a eu à l'est, il y en a eu à l'ouest. Ça veut dire que le virus circule. Mais ce que je vais vous dire aussi par rapport à votre question, l'épidémie actuelle qui se passe au nord Kivu n'a rien à voir avec l'épidémie qui a eu lieu dans l'Équateur il y a quelques mois. Il n'y a pas de lien. Les analyses ont permis de savoir que le sérotype, le génotype qui sévit actuellement n'est pas le même génotype qui s'est passé dans l'Équateur. Donc, je pense que c'est l'écosystème qui favorise, quand les conditions sont réunies, eh bien, la maladie peut surgir de tous les côtés. Mais je peux vous rassurer, les autorités sanitaires congolaises, avec leurs partenaires, font vraiment tout pour contenir l'épidémie là où elle se déclenche. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est un peu différente de ce qu'il y a ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans. Parce que les moyens de communication sont plus développés et les gens se déplacent partout. Pour vous donner un exemple que tout le monde connaît, quand il y a eu l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, il y a eu des cas d'Ebola qui se sont retrouvés aux États-Unis, qui se sont retrouvés en Europe. Donc, ça, si jamais l'épidémie arrive à voyager quelque part, ne dites pas que c'est parce que les gens ne font pas des efforts. Non.
On revient ici à Kinshasa pour une question. Oui, madame. Le micro est en train d'arriver. Ça y est, on y est.
Bonjour, merci. C'est Mimi sur le TTCC TV. Madame, ça vous concerne. Je voulais seulement essayer pas de compléter la question de la concert qui est à côté. Madame, lors de l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba, vous le connaissez, à l'aéroport de Ndjili, on a remarqué l'absence totale de vos troupes, hein, de troupes onisiennes. Comment vous allez justifier ça? Parce que chaque fois, on remarque des troupes hantées de circuler, même s'il n'y a pas d'événement. Mais l'autre jour, c'était vraiment un événement et ça dépendait de vie humaine. Comment justifiez-vous votre absence?
Alors, Je l'ai dit, la représentante spéciale du secrétaire général, la semaine dernière, a rencontré et a parlé à beaucoup de personnes, dont Monsieur Bemba, à propos justement de la sécurité. Et elle lui a dit, dans exactement les mêmes termes, ce que j'ai dit précédemment, qu'il était impossible pour la mission, que ce n'était pas dans notre mandat d'assurer sa protection. Ce qu'il a tout à fait compris, et donc c'est la raison pour laquelle ce sont les autorités congolaises, l'État congolais qui a la mission régalienne d'apporter la sécurité des biens et des personnes, qui ont pris en charge sa sécurité pendant l'ensemble de la durée de son séjour ici en RDC. Donc ceci explique la raison pour laquelle nous n'étions pas présents à l'aéroport. Ou ailleurs pendant ce séjour. Je tiens aussi à préciser que la force de la MONUSCO, c'est moins de 16 000 hommes sur un territoire qui est grand comme un continent, avec une responsabilité primaire qui est de neutraliser les groupes armés qui se trouvent dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc les forces que nous avons ici à Kinshasa sont vraiment en nombre limité, avec pour priorité de protéger les personnels et les installations des Nations Unies. Ça, c'était un complément d'information par rapport, pour vous mettre un petit peu les choses en perspective. On a moins de 16 000 hommes, donc on ne peut pas être partout. Voilà. On repart à Goma pour une question.
Merci beaucoup. L'élan, c'est Justé Kabumba, correspondant régional des Congo Synthèse et Afrique Média. Ma question, c'est pour les colonels. Mon colonel, la fois dernière, la société civile territoire de Nyiragongo a alerté sur une nouvelle rébellion dans ce même territoire. Parce qu'il faut souligner que dans la nuit du dimanche, à lundi, il y a eu une nouvelle attaque contre la position des FARDC, dont la 34e région militaire a déploré la perte d'un élément des FARDC. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à cette attaque? Est-ce que c'est une nouvelle rébellion ou bien quelles sont les personnes qui seraient à la base de cette attaque? Merci.
Dire que en pareille circonstance, il y a des gens qui profitent de ce que généralement la situation est un peu détériorée et qui peuvent spontanément je dis, mener des attaques dans le sens de créer de la confusion. L'objectif pour eux, c'est peut-être de puiser pour quelques mois une petite logistique sur les populations, etc., etc. Ce n'est donc pas aujourd'hui. Le niveau d'intelligence, le niveau d'information ne permet pas de craindre la naissance d'un nouveau groupe armé dans la région de... Enfin, dans le Nord Kivu. Même si je n'exclus pas qu'il y ait des alliances entre défectifs et... entre Maïmaï défectifs d'ici et Maïmaï... En fait, on est toujours en situation de recomposition. Des gens qui quittent d'un groupe et qui vont à un autre, des gens qui n'ont plus de sympathie pour des raisons que je ne sais pas, à un groupe et qui rejoignent un autre groupe. Le niveau d'intelligence ne permet pas de craindre la naissance d'un autre groupe armé dans le Nord Kivu. Voilà ce que je peux dire.
Nous prenons une autre question ici à Kinshasa. Oui, monsieur.
Merci Florence, quand même, j'ai regardé la montre, j'ai dit, mais est-ce que madame porte pas nous réformer ce pied?
On va vite, il reste plus que 6 minutes, on y va.
Je voulais savoir, à ce niveau des choses, où la MONUSCO parle, mais vous n'êtes pas écouté, les libertés individuelles sont bafouées en RDC, Jean-Pierre Bemba ne peut pas voir la résidence de sa famille. Est-ce que nous devons continuer à croire qu'avec la résolution 2409, nous aurons des élections libre, démocratique et transparente, et surtout l'inclusivité qui est recommandée dans la résolution, n'y est pas. La MONUSCO malmenée, votre hélicoptère ne peut pas atterrir face à un Rambo. Qu'est-ce que vous ferez? On peut continuer à croire que la MONUSCO a encore une mission?
La MONUSCO a la mission qui lui est confiée par le Conseil de sécurité. Une fois de plus, je vais me répéter, c'est une mission avec les termes exacts sont dans la résolution 2409. En ce qui concerne la protection des libertés et des droits civiques et politiques, je l'ai dit, nous avons des outils à notre disposition pour pouvoir faire du plaidoyer afin que ces derniers soient respectés. La représentante spéciale du secrétaire général engage de façon permanente un dialogue avec les autorités en charge du maintien de l'ordre pour que le droit de manifester, qui est garanti par la Constitution, soit exercé et respecté et exercé dans de bonnes conditions. Elle rappelle aussi les engagements pris dans l'accord du 31 décembre, dont la libération des cas emblématiques, etc. Donc, le travail des bons offices se fait. C'est un travail qu'il s'agit de convaincre, il s'agit de persuader, mais il ne s'agit pas d'un mandat exécutif. Donc, ça, c'est le premier volet de ce qui est possible de faire. Une autre chose, c'est, je l'ai aussi mentionné un petit peu plus tôt, c'est le monitoring. C'est que nous observons les choses à la demande du Conseil de sécurité. Vous le savez, depuis la nouvelle résolution, nous faisons des rapports tous les mois au Conseil de sécurité sur l'évolution de la mise en œuvre de l'accord et du processus électoral. Donc nous rapportons ce que nous voyons au Conseil de sécurité, d'éventuelles violations des droits de l'homme. Et si nous constatons, nous, de notre côté, des infractions, nous demandons aussi aux autorités congolaises de les sanctionner. Donc nous intervenons dans le cadre de du mandat qui nous est donné par les 15 membres du Conseil de sécurité. Et ce mandat, je peux vous l'assurer, au jour le jour, toute la mission est mobilisée pour le mettre en œuvre. Nous retournons à Goma pour ce qui va être sans doute la dernière question, donc il faut qu'elle soit hyper rapide. Merci.
Merci. C'est Elvis Diabar, RDC. Ma question, je la pose au porte-parole militaire. Donc, la mobilité des forces de la MONUSCO à Beni, il paraît, elle a été réduite suite à l'épidémie d'Ebola, est-ce vrai? Et aussi, les pneus des véhicules qui font la patrouille à Beni, sont-ils désinfectés à chaque retour au camp? Est-ce vrai?
Merci beaucoup. Vous me donnez l'occasion de dire que à chaque fois qu'il y a des épidémies du genre, même quand on suppose que l'épidémie est contenue ou enrayée, les règles d'hygiène et de bonne conduite doivent continuer, doivent être des règles permanentes. Ici, à chaque érection d'Ebola, on dit aux gens de s'éloigner des viandes de brousse, de ne pas toucher les animaux morts. Mais c'est difficile, les gens continuent sur ce chemin. Bon, maintenant pour revenir à votre question, le Force Medical Officer a été instruit pour rédiger à toutes les troupes, qu'elles soient à Beni, environ ou même très éloignés de Beni, des règles d'hygiène. Et effectivement, les véhicules sont passés, chaque fois qu'ils reviennent de patrouille, les véhicules sont passés à un certain nettoyage. Les camarades qui redescendent ont un peu l'obligation de laver les mains, de respecter les petites règles d'hygiène. Et on est aussi instruit pour se surveiller et pour reporter au cas où quelqu'un ne se sentirait pas bien, il faut rapidement réagir. Mais je regrette, ça ne doit pas être qu'à la force. C'est un minimum que nous tous qui sommes dans le Nord Kivu sommes censés respecter.
C'est bien noté, colonel. Merci à tous pour votre participation à cette conférence de presse. Il est midi à Kinshasa. Prochain rendez-vous le mercredi 22 août à 11h15, heure de Kinshasa. Merci à tous.